Résurrection. Alléluia. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous voulons t'accueillir en nous prosternant devant toi, car nous n'avons qu'un but, te glorifier pendant ces moments où nous serons ensemble. C'est ta présence qu'il nous faut, c'est ton esprit qu'il nous faut. C'est ton amour qu'il nous faut. C'est ta vie, Seigneur, qu'il nous faut. C'est ta parole aussi de vérité et de grâce. Ô Seigneur, merci pour tout ce que tu veux faire au milieu de nous. Ô à toi notre adoration et notre louange. Tu es digne. Tu es digne de régner dans notre cœur, car tu as été l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix, qui a souffert pour nos péchés, toi juste pour nous injustes. Ô, à toi soit la gloire, et avec la multitude dans les cieux, avec les anges et les archanges, nous célébrons, nous glorifions. Le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Alléluia. Nous nous courbons devant toi et te donnons toute la gloire. Alléluia. Enseigne-nous aussi par ta parole, Seigneur, et par ton esprit. Tu nous as laissé ta parole comme la nourriture de notre âme, comme l'épée de l'esprit, comme l'huile aussi qui guérit nos maladies et nos blessures. Ô, à toi, louange, honneur et gloire pour tout ce que tu es au milieu de ton peuple. Et que tout le peuple dise gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Premiers chrétiens, lorsqu'ils se rassemblaient le jour de Pâques, avaient, disait-on, une façon de se saluer. Le prédicateur disait « Christ est ressuscité » et les chrétiens, de leur côté, annonçaient « Il est réellement ressuscité ». Je crois que nous allons faire la même chose, vous êtes d'accord? Puisque nous voulons suivre les premiers chrétiens, puisque la première église est comme un modèle pour la dernière église que nous sommes, alors je crois que nous pouvons commencer ce week-end de Pâques en confessant la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia! Christ est ressuscité.
Il est réellement ressuscité.
Encore une fois, Christ est ressuscité.
Il est réellement ressuscité.
Oh, il faut le faire au moins trois fois. Christ est ressuscité.
Il est réellement ressuscité.
Oh, de tout notre cœur encore une dernière fois. Alléluia! Christ est ressuscité.
Il est réellement ressuscité.
Oh, alléluia!
Alléluia.
Et s'il est ressuscité, où est-ce qu'il est maintenant? Il est dans notre cœur et il est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Ainsi, s'il est là, il se passera certainement quelque chose. Non pas à cause de moi, non pas à cause de vous, non pas à cause d'un prédicateur, non pas à cause de qui que ce soit. S'il se passe quelque chose au milieu de nous, c'est à cause de Jésus et de Jésus seul. Amen.
Amen.
À cause de lui et de lui seul. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu nous vienne en aide encore, afin que pendant ce week-end, nous puissions réellement rencontrer le Christ ressuscité. Alléluia! Et comme les disciples d'Emmaüs, vous puissiez tous repartir chez vous en disant, il est réellement ressuscité. Mais il est ressuscité. Il est vivant. Je l'ai rencontré. Je l'ai touché. Il m'a touché. Alléluia! J'ai entendu sa voix, comme pour Marie, quand Jésus a dit « Marie ». Quel accent merveilleux il y avait dans cette voix. Et Marie a tout de suite reconnu la voix de Jésus. Alléluia. Oui, mes chers amis, Dieu veut se révéler à nous. Je m'attends à ce qu'il m'ouvre encore les yeux. Et il veut nous faire du bien. Vous vous souvenez encore, quand il a parlé aux autres disciples, ils ne comprenaient pas encore les Écritures. Il était ressuscité, cependant, ils pensaient qu'il était un esprit. N'est-ce pas vrai? Ils pensaient qu'il était un esprit et ils avaient de la peine à croire. Mais Jésus leur a dit, mais je ne suis pas un esprit, je suis ressuscité. Est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Je suis réellement ressuscité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et pourtant, il leur avait expliqué les Écritures, et malgré cela, ils n'avaient pas compris. Ils avaient besoin d'une révélation. Je crois qu'il en est de même pour nous, chers amis. Bien souvent, nous lisons « Christ est ressuscité ». Mais écoutez-moi bien, tant que nous n'en avons pas une révélation, tant que cette parole ne nous est pas révélée, ces paroles ne nous servent à rien. Où une révélation de Dieu, de sa résurrection, peut résoudre tous nos problèmes, n'est-ce pas vrai? Quand Christ s'est révélé à ses disciples, les problèmes étaient résolus. Oh, il n'était pas parfait, c'est vrai. Il n'était pas parfait, mais quelque chose s'est passé. Désormais, ils savaient que leur Seigneur n'était pas mort, mais qu'il était ressuscité. Et étant ressuscité, il avait tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, pour résoudre leurs problèmes. Et ils ne seraient plus jamais, jamais, jamais seuls. Alléluia! Le problème de notre génération, n'est-ce pas la solitude, chers amis? N'est-ce pas la solitude? Des milliers de personnes dépensent des milliers de francs auprès de spécialistes pour être guéris de cette solitude, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas l'aveu évident que l'on ne connaît pas le Christ ressuscité? Et encore, le mal est encore plus grand lorsque nous pensons que ces personnes sont des chrétiennes. Que ces personnes soient du monde et souffrent de la solitude, on comprend sans le Seigneur, n'est-ce pas? Mais que ce soit les chrétiens eux-mêmes qui souffre, qui soit déprimé à cause de cela, je crois que le Seigneur en est attristé. Et c'est pourquoi il voudrait nous révéler sa résurrection. Il voudrait nous montrer que s'il est réellement ressuscité, alors nous ne sommes plus jamais seuls. Alléluia! Et vous ne serez plus jamais seuls. Gloire à Dieu! Alléluia! Mais pour expérimenter cela, il nous faut aller à la racine, au fondement de la résurrection, au fondement de Pâques. Où est-ce que la Pâque a commencé? Dans Exode chapitre 12, n'est-ce pas, nous voyons cela, lorsque le peuple d'Israël a été délivré de la main des Égyptiens. Et par quoi ont-ils été délivrés, le peuple d'Israël? Dites-le-moi un petit peu, fort! Par quoi? Dites-le fort! Par le sang de l'agneau. Et lui-même a dit, « Vous me poserez du sang sur les poteaux et les linteaux de vos portes. Et là où je verrai le sang, je passerai outre, je passerai par-dessus. » La Pâque signifie Pâque. Le mot Pâque signifie passer par-dessus. Mais à quoi par-dessus quoi? Il y a le jugement qui va venir. Le jugement allait atteindre les premiers-nés des Égyptiens. Et à cause de ce sang, l'Éternel allait passer par-dessus les maisons d'Israël et passer par-dessus le jugement qui allait venir. Plus que jamais, nous avons besoin de réaliser la puissance de ce sang. Si nous comprenons la valeur du sang de Jésus, alors nous allons comprendre ce qu'est Pâques et la résurrection. Amen. C'est pourquoi j'aimerais apporter ce premier message. J'aimerais apporter un message sur le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Triomphant par le sang de Christ. Voilà le titre de mon message. La résurrection, le sang de Jésus est un message de délivrance. Amen. Un message de délivrance. Et c'est pourquoi, si nous voulons véritablement vivre Pâques au milieu de nous, Dieu va agir en délivrance. Gloire à Dieu. Et j'aimerais donner donc un verset. Il y en a plusieurs, mais commençons par le premier. C'est l'apôtre Pierre lui-même qui nous parle du sang de Jésus. Et vous allez le remarquer, l'apôtre Pierre appelle le sang de Jésus le sang précieux de Jésus. Le sang précieux. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. Car sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang de Jésus, le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Le sang de Jésus est appelé le sang précieux de Christ. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la chose la plus précieuse pour vous dans cette vie? Quelle est la chose la plus précieuse dans le fond de votre cœur? Pas seulement superficiellement comme cela. Si il n'y avait qu'une réponse à faire, écoutez-moi bien, s'il n'y avait qu'une réponse à faire, qu'est-ce que vous répondriez. Quelle est la chose la plus précieuse? Et il ne faut qu'une réponse. Pas deux réponses. Pas trois. Pas quatre. Une seule chose. Qu'est-ce que vous diriez? Le sang précieux de Jésus. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, ce qui est précieux, ce n'est pas toujours le sang de Jésus. Certains disent, moi ce qui est précieux, c'est ma petite maison, c'est ma femme, mes enfants, tout ça c'est très bien, c'est juste. L'autre dit, c'est mes titres. Oui, il y en a qui ont des titres, les autres ont des sous-titres. Ça c'est très important. Alors les autres disent, ah mais ce qui est précieux pour moi, bientôt, c'est la retraite. Et puis d'autres disent, ah ce qui est précieux pour moi, c'est ma religion. Parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent la religion comme quelque chose de précieux. Et cela, je le remarque de plus en plus. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas la religion qui doit être précieuse à nos yeux, même si c'est une religion chrétienne, ne l'oubliez pas. La seule chose précieuse devant Dieu et dans le ciel, c'est le sang précieux de Jésus. Lorsque vous vous présenterez devant Dieu, ce n'est ni votre étiquette religieuse, ni vos œuvres religieuses qui auront de la valeur devant Dieu. Écoutez-moi bien, ceci est très important. Il n'y a qu'une chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu, qui est précieuse aux yeux de Dieu, et qui doit être précieuse à nos propres yeux. Cela est le sang précieux de Jésus. Alléluia! Pourquoi? J'aimerais vous donner maintenant 5 raisons pourquoi ce sang est précieux. 5 transfusions de sang. Je vais vous faire une transfusion de sang. Car le sang, c'est la vie. Alléluia! Et Dieu veut vous faire une transfusion de sang. Pas seulement une, mais 5. Alléluia! Est-ce que vous supportez les transfusions? Il y en a qui ne supportent pas bien les piqûres. Ça leur fait mal à gauche, à droite, mais ça fait rien. Ah, quelques bonnes transfusions de sang peuvent vous libérer, vous transformer pendant ce week-end. Alléluia! 5 transfusions importantes du sang de Jésus. Première transfusion divine. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous l'avons lu tout à l'heure, c'est 1 Pierre 1,18 nous dit, « Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus, de Christ. » Écoutez-moi bien maintenant. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Savez-vous que dans certaines Bibles, maintenant, je ne sais pas en français, mais en tout cas, en anglais déjà, il y a des Bibles où la mention du sang n'existe plus. On n'en veut pas. Il y a beaucoup de ces messieurs soi-disant théologiens qui ne peuvent pas supporter la mention du sang de Jésus. Ils nous disent, excusez-moi l'expression, que cette théologie est une théologie de boucherie, excusez-moi l'expression, mais c'est une abomination ce qu'ils disent. Et ce sont des théologiens, ils veulent nous dire, nous ne sommes pas sauvés par le sang de Jésus. Ils nous disent, à la place du sang, il faut mettre autre chose. Il faut mettre, nous sommes sauvés par la vie de Jésus. Non, chers amis, nous ne sommes pas sauvés par la vie de Jésus. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Christ est mort pour nos péchés. Lui, juste pour nous injustes. Voyez-vous, c'est sa mort qui nous sauve. C'est son sang qui nous sauve. Et dire que c'est la vie de Jésus qui nous sauve, c'est un faux évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est plus l'évangile de la croix. Ce n'est plus l'évangile qui sauve. C'est un évangile humain qui n'a plus de puissance. Écoutez-moi bien. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Cela veut dire 3 choses. Quand nous pensons au verbe racheter, il y a trois pensées importantes que nous devons toujours avoir devant nos yeux. Si la Bible dit que nous sommes rachetés, c'est que, premièrement, pour nous racheter, il fallait que nous soyons esclaves. Nous parlons beaucoup de rançon aujourd'hui, malheureusement, n'est-ce pas? On parle beaucoup de rançon. Et la personne, pour la racheter, que faut-il faire? Il faut payer des sommes impossibles. Mais pour libérer la personne, il faut que cette personne soit premièrement esclave. Donc, quand la Bible dit que nous sommes rachetés, cela veut dire que par nature, nous sommes esclaves du péché. C'est-à-dire que nous sommes morts aux yeux de Dieu dans nos péchés. L'apôtre Paul le dit, et nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Cela veut dire que l'homme, par lui-même, quel qu'il soit, ne peut avoir de communion avec Dieu. Même l'homme religieux, et c'est là très important, beaucoup de gens pensent, on dit, mais pensez-vous que les autres religions ne sont pas aussi valables que la religion chrétienne? En pensant que les autres sont aussi en communion avec Dieu, comme nous, nous sommes en communion avec Dieu. C'est une erreur, mes chers amis. Laissez-moi vous dire une chose. Les autres religions, et d'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie, alléluia. Oh, alléluia! Mais les autres religions ne sont pas en communion. Et même l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va plus loin et il dit, ceux qui sacrifient aux idoles, ils ne sacrifient pas à Dieu, mais ils sacrifient à des démons. Loin de sacrifier à Dieu, ces personnes idolâtres ne sacrifient pas à Dieu, mais aux démons. Donc, ces autres religions ne sont pas en communion avec Dieu. Il y a, c'est vrai, un certain mysticisme, n'est-ce pas vrai? Ah, ils sont mystiques, ça c'est vrai. C'est pourquoi ils sont pleins de moustiques aussi. Ça pique dans tous les coins. Mais cela n'a rien à voir avec la véritable foi. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Pourquoi? Il y a une raison toute simple. L'Éternel a dit à Adam, le jour où tu pécheras, tu mourras. Cela veut dire que le jour où Adam a désobéi à la parole de Dieu, il est mort. Mais je vais dire, mais comment ça se fait, il est mort? Et pourtant il vivait encore. Il a encore vécu plus de 900 ans. Il n'est donc pas mort. Si il est mort, quelque chose en lui est mort. Qu'est-ce que c'était? Son esprit est mort à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, son esprit étant mort, il n'avait plus de communion avec Dieu. C'était fini. C'est pourquoi tout homme qui naît maintenant naît avec un esprit qui est mort. Un esprit qui ne peut avoir de communion avec Dieu. Même s'il prie comme cela, même s'il prie Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est en communion avec Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu dans le monde, et c'est là la bonne nouvelle, la Bible dit que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour condamner les hommes, mais pour les sauver. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aux yeux du Seigneur, tous les hommes sont condamnés. Nous sommes tous condamnés à mort. Il est venu au milieu d'hommes et de femmes qui n'ont plus de communion avec Dieu, qu'ils soient religieux ou pas. Nous sommes esclaves. Et c'est pourquoi Jésus est venu, non pour condamner. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà condamnés. Vous comprenez? Il ne va pas condamner quelqu'un qui est déjà condamné. Vous comprenez? Il n'est pas venu. Toi, je te condamne. Non! Il est déjà condamné. Mais vous dites que lorsque vous prêchez, vous, l'évangile, vous condamnez les gens. Je ne condamne personne, les gens sont déjà condamnés. C'est pourquoi l'évangile doit être un évangile de libération. Mais on libère qui? Ceux qui croient qu'ils sont condamnés et qu'ils sont esclaves. Ceux qui réalisent qu'ils sont privés de la communion avec Dieu. Amen.
Et pour cela, laissez-moi dire une chose, il faut être humble. Réaliser que nous ne sommes rien, et plus que jamais, j'insiste là-dessus, parce que plus que jamais, vous verrez, plus nous irons de l'avant, avec cette religiosité, ce mysticisme qui se manifeste dans ce monde aujourd'hui. Même des chrétiens vont jusqu'à dire, mais comment ? Mais notre religion n'est pas supérieure aux autres. Mais notre religion, nous n'avons pas le droit de condamner ces gens et leur dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est un blasphème, une telle parole. Cela révèle que nous-mêmes, nous n'avons pas compris le véritable message. Ou alors, nous avons compris ce qu'il ne fallait pas comprendre. Nous avons compris qu'une chose, c'est que c'est la religion qui sauve. C'est que c'est la religion qui sauve. Alors bien sûr, si vous pensez que c'est la religion qui sauve, naturellement, alors toutes les religions sont valables. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça, oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas la religion qui sauve. Oh, pourquoi ? Parce que l'homme est mort à cause de son péché, à cause de sa rébellion. L'homme est séparé de Dieu. Il est esclave. Il ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Il ne peut rien faire pour retrouver la communion avec Dieu. Il ne pourra jamais rien. Il est condamné à mort. Ça, c'est la première vérité. Il vient racheter ceux qui sont esclaves, ceux qui sont condamnés. Mais la deuxième vérité, celle-ci, qui est merveilleuse. Nous sommes esclaves, mais nous sommes aimés du Seigneur. Alléluia. Oh, c'est là une merveilleuse nouvelle. Nous sommes condamnés, mais nous ne sommes pas rejetés par le Seigneur. Dans son amour, il est venu nous sauver. Alléluia! Et c'est pourquoi la plus grande preuve, écoutez-moi bien, si vous voulez avoir la preuve que vous êtes aimé du Seigneur, quelle est la plus grande preuve que Dieu ait donnée aux hommes pour savoir s'ils sont sauvés? D'après vous, quelle est la plus grande preuve? Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La plus grande preuve que Dieu t'aime, écoutez-moi bien, ceci est très important. Cette révélation, cette vérité peut vous guérir de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés spirituelles, psychiques, physiques aussi. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela veut dire que nous sommes esclaves, nous sommes condamnés. Mais Dieu est venu pour nous sauver. Et s'il est venu pour nous sauver, c'est que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et j'aimerais dire ici à tous ceux qui sont là cet après-midi, et qui seront là pendant ce week-end, j'aimerais vous dire une chose, c'est vrai, nous sommes rejetés, nous sommes condamnés, nous ne méritons rien, nous sommes perdus, mais il y a une autre vérité, nous avons été rachetés, nous avons un Dieu qui nous aime personnellement, Christ a versé son sang pour toi, pour que tu sois sauvé, parce que tu es aimé, 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 alléluia. Oh, si nous pouvions réaliser cette vérité, si vous pouviez dire, Seigneur, c'est vrai, je suis perdu sans toi, mais ta mort sur la croix me révèle une vérité, c'est que tu m'aimes, c'est que j'ai du prix à tes yeux, oh gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, mes chers amis, le plus grand péché aux yeux de Dieu, c'est de douter de l'amour de Dieu. Vous ne serez pas condamné à cause du péché que vous avez commis. Mais vous serez condamnés à cause du remède que Dieu vous a donné et que vous avez refusé. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous avons du prix à ses yeux. Oh, peut-être que tu n'as pas du prix aux yeux de certaines personnes. Et je sais, nous avons tous fait des expériences d'humiliation, n'est-ce pas vrai, n'est-ce pas ? Tous, on a été humiliés d'une manière ou d'une autre. Et moi, je m'en rappellerai tout le temps, mais bien sûr, le Seigneur a purifié mon cœur de cela. Mais c'était à l'école, avec un professeur. J'avais un prof qui, je ne sais pas, il avait un malin plaisir à m'humilier. Il est vrai que j'étais pas une fleur. Il avait peut-être des raisons un petit peu aussi de m'en vouloir. Mais en attendant, ce n'était quand même pas une raison pour humilier l'élève comme cela à un tel point. Et cela m'a profondément marqué pendant un temps, réalisant que si ce prof n'a, je ne vaux rien aux yeux de ce prof, alors à qui, aux yeux de qui est-ce que j'ai de la valeur? Donc je ne vaux rien dans ce monde. Et je sais que pendant des années, nous pouvons aller à gauche, à droite, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons même être guéris, nous pouvons même être baptisés dans le Saint-Esprit, nous pouvons même faire des expériences glorieuses avec Dieu, et cependant, ne pas avoir réglé ce problème essentiel, ce problème fondamental dans notre foi chrétienne, c'est que nous sommes aimés de Dieu. La preuve, où est la preuve? La croix. La croix est la preuve. Je lisais une fois le témoignage d'un homme qui était devenu un vagabond. Et alors, mais c'était un ancien directeur d'école. Enfin, c'était un gars très intelligent. Et il avait fait beaucoup d'études. Il avait même appris le latin. Il savait le latin. C'était un homme très intelligent. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. À un moment donné, il a été découragé. Et il a commencé à vivre dans les rues comme un vagabond. Et étant dans les rues, il a eu un accident assez grave. Et on l'a emmené à l'hôpital. Et là, on l'a mis sur le lit d'hôpital. Les deux chirurgiens étaient en train de se concerter. Et ils avaient quelques mots à se dire. Et ils voulaient dire quelques paroles un petit peu spéciales. Ils ont dit, tiens, on va se parler en latin, tous les deux, pour pas que le malade comprenne. Et ils se sont dit tous les deux, de toute façon, on n'a qu'à l'opérer celui-là parce qu'il ne vaut pas grand-chose. Il n'y a qu'à voir comme il est. Regardez voir dans quel état il se trouve celui-là. Un vagabond, des vêtements déchirés, tout sale, puant. Alors, on peut bien l'opérer même si ça ne marche pas. Tant pis, allons-y. Et l'autre, il a entendu ça. Et du fond de sa puanteur, il a ouvert les yeux et il leur a dit, parce qu'il avait fait une expérience avec le Seigneur, je ne sais pas à quel moment, et tout à coup il a dit, « Ne méprisez pas celui pour qui Jésus est mort sur la croix. Je n'ai pas de la valeur à vos yeux, mais j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. » Et les autres étaient tous au bruit quand ils ont entendu ça. Alléluia! Et je crois que c'est une bonne réponse. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons tous garder dans notre cœur. Nous sommes aimé du Seigneur. Alléluia. Oh, et le Seigneur veut agir au milieu de nous pendant ces jours. Et il veut vous prendre dans ses bras et il veut te dire, mon enfant, je t'aime. Alléluia. Amen. Oh, c'est pourquoi vous pouvez prendre aussi votre frère et votre sœur dans les bras. Vous savez que le Seigneur peut guérir aussi quelqu'un de cette manière. Le Seigneur peut parler à quelqu'un de cette manière. Au travers de vous, de votre amour pour cette personne, vous pouvez faire des miracles aussi. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes aimés, tu es aimé. Tu dis, je ne sens rien, tu n'as pas besoin de sentir. Les circonstances prouvent le contraire. Circonstances ou pas circonstances, Dieu t'aime. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Sera-ce la mort, la tribulation, la faim, l'angoisse, l'inutilité, le péril et tout? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia! Oh, si vous pouviez quitter cette convention en disant « Je suis aimé du Seigneur, alléluia !» Ce serait la plus grande victoire. Ou vous pouvez même aller plus loin pour dire « Je suis un chouchou du Seigneur !» Oh, alléluia! Et ce serait la vérité. Ce serait la vérité. J'avais lu aussi cette histoire d'un papa qui avait bien su s'y prendre avec ses enfants. Et de telle sorte que chacun de ses enfants pensait qu'il était un chouchou tout particulier du papa. Alors, l'enfant pensait que l'autre n'était pas un chouchou, mais il n'y avait que lui. Et alors, quand un jour, les enfants se sont concertés, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous des chouchous du papa. Ils ont dit, tiens, mais comment ça se fait? À toi aussi, le papa, il t'aime tant? T'es aussi le chouchou du papa? Ah, oui, moi aussi. Il avait réussi une telle chose extraordinaire qu'à chacun, il a voulu leur dire, tu es particulier. Tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Oh, ça devrait déjà nous faire bondir. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car vous êtes l'ouvrage de Dieu. Avez-vous remarqué ce que ce mot « ouvrage » veut dire dans le texte original? Moi, je ne sais pas le grec. J'ai lu un commentaire là-dessus. Et ce mot « ouvrage » veut dire « chef-d'œuvre ». Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Pour mourir sur la croix, la croix est le chef-d'œuvre de Dieu. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il pensait à vous, à toi, à moi. Amen. Il pensait à toi. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Dites-moi un petit peu, moi je ne suis pas fort en français, ces choses-là, ça me dépasse un peu. Mais qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? C'est quelque chose qui a de la valeur. Mais encore plus, c'est quelque chose qui est unique. Quand un peintre dit « ça c'est mon chef-d'œuvre », cela veut dire que, à comparer avec les autres tableaux, ça c'est le meilleur, c'est le sommet. C'est le sommet, c'est le maximum. C'est mon chef-d'œuvre, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux, c'est mon chef-d'œuvre. Et vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour vous. Vous avez du prix à ses yeux. Mais vous dites, je sens rien, mais c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Tu dois croire ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous sommes rachetés. Rachetés, cela veut dire que nous sommes aimés de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Confesse-le par la foi. Vous savez que toutes les vérités sont valables à la fois et par la foi. Si vous ne confessez pas ces vérités, vous ne les expérimenterez pas. N'attendez pas que les sentiments viennent, vous n'aurez jamais ces sentiments. N'attendez pas que les autres fassent quelque chose, vous risquez d'attendre longtemps. Dieu a déjà tout fait il y a 2000 ans, alléluia. Vous êtes déjà aimés du Seigneur, gloire à son nom. Une troisième vérité, nous sommes rachetés. Une troisième vérité, nous sommes rachetés par quoi maintenant? Par le sang de Jésus. Cela veut dire que il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous racheter. Nous avons été rachetés à un grand prix, nous dit la Bible. Et ce prix, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Et j'insiste là-dessus maintenant. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos prières, à cause de vos souffrances. Vous n'êtes pas sauvé à cause de toutes les bonnes choses que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous appartenez à telle ou telle religion. Vous n'êtes pas sauvé à cause de cela. Je le dis et j'insiste, parce que des multitudes seront perdues parce qu'ils ont mis leur confiance dans une religion. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la religion, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia! Vous êtes rachetés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. C'est lui qui a payé ta dette. Tu ne pouvais pas payer ta dette. D'ailleurs, il n'attend rien de ta part. Il n'attend rien. Il n'attend pas que tu fasses quelque chose. Car tu ne peux jamais rien faire. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pourquoi il a payé de son sang. Il a payé ta dette. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il a payé et son sang a été le prix payé pour le rachat de nos âmes. Voilà pourquoi le sang de Jésus a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Parce que sans le sang de Jésus, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, vous êtes perdus. Avez-vous mis votre confiance dans le sang de Jésus? Alléluia. Et lorsqu'on met sa confiance dans le sang de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une quatrième bénédiction, si vous voulez, là. C'est la délivrance. Alléluia. Nous sommes délivrés de notre culpabilité. Oh, gloire à Dieu. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas en nous-mêmes. Pas dans notre Église. Mais en Jésus-Christ. Il y a une pleine libération. Alléluia. Oh, je suis heureux de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. À cause de ma foi dans le sang de Jésus. Et vous pouvez avoir cette même confession. Que le Seigneur nous donne, que tous ici, sans exception, nous ayons cette foi-là. Alléluia! La foi dans le sang de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Il faut que j'aille un peu vite maintenant. Premièrement, je vous ai dit 5 transfusions de sang. Les 4 autres, on va les faire en vitesse un petit peu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Deuxième transfusion de sang. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Romains 5, 8. Justifié par le sang de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Écoutez-moi bien, une autre transfusion maintenant. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus, mais maintenant nous sommes justifiés. Écoutez-moi bien, c'est très important. Le mot justifié, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot justifié veut dire plus que pardonner. Supposons que vous ayez fait une mauvaise action et que on vous juge au tribunal, mais qu'au tribunal, le juge dise, eh bien, vous êtes pardonné. Eh bien, si vous êtes pardonné, vous pouvez rentrer à la maison, vous êtes pardonné, mais le fait que vous ayez fait quelque chose demeure. Vous êtes pardonné, c'est vrai, mais le fait que vous ayez mal agi, c'est là, c'est toujours là. On s'en rappelle toujours. Tu es pardonné, c'est vrai, mais on sait que tu as mal agi. Ça, c'est être pardonné. Et beaucoup de chrétiens n'en restent que là. Mais être justifié, c'est beaucoup plus que cela. Si le juge maintenant vous dit, tu n'es pas seulement pardonné, mon ami, tu es justifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire maintenant tu peux te partir et tu peux te considérer comme si tu n'avais jamais commis la faute que tu as commise. Alléluia! Vous auriez pu dire Alléluia! Ça vous fait pas plaisir, ça? Mais c'est extraordinaire! C'est cela la bonne nouvelle! Le juge vous dit, mon enfant, tu es justifié. Cela veut dire que tu peux partir maintenant. Et je te considère comme si tu n'avais jamais péché. Oh, gloire à Dieu! Voilà ce que signifie être justifié par le sang de Jésus. Désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père. Et comment Jésus se présentait-il devant son Père? Comme le juste juge. Comme le juste. Le juste. Il était juste. Et quand il se présentait sans aucun sentiment de condamnation, d'infériorité ou de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Et sa justice est devenue la nôtre. Alléluia! Étant justifié, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père, sans aucun sentiment de culpabilité. Alléluia! Oh, voilà une vérité extraordinaire. C'est la vérité dont le monde a besoin, dont les chrétiens ont besoin. Combien de chrétiens ploient sous ces sentiments de culpabilité? Ils n'en sortent jamais. Jamais, oui. Ils demandent 150 fois pardon pour le même péché. Ils se disent, oh, j'espère quand même que j'ai assez jeûné pour ce péché. J'espère que j'ai assez pleuré pour ce péché. J'espère que j'ai assez souffert pour être pardonné de ce péché. Et ils cherchent à se pardonner eux-mêmes, à se justifier eux-mêmes. Mais Dieu nous dit, mon ami, ce n'est pas comme cela que tu es pardonné, que tu es justifié. C'est le sang de Jésus. Maintenant, à cause du sang de Jésus, tu peux te présenter devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché. Oh, gloire au Seigneur! Alors, qu'est-ce qui se passe? Votre vie de prière va complètement changer. Comment est-ce que vous allez vous présenter devant Dieu? Tout à fait libre. Bien sûr, si nous avons commis une faute, nous devons confesser notre faute. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, gloire à Dieu! Avez-vous bien saisi cette vérité? Vous êtes justifié par le sang de Jésus. Cela veut dire que Dieu vous considère comme si vous n'aviez jamais péché à cause de son sang. C'est extraordinaire. Croyons-le. C'est le message de Pâques. Alléluia! Il n'y a que de cette façon que nous pourrons aller délivrer les autres de leur culpabilité. Si nous sommes libres nous-mêmes, le croyez-vous? Nous sommes justifiés. Tu es juste aux yeux de Dieu. Attention, si tu ne crois pas que Dieu te justifie, tu vas devenir un propre juste toi-même. Car l'homme a besoin de se justifier. Si ce n'est pas Dieu qui te justifie, alors il faut que tu te justifies toi-même. Et tu deviens un propre juste. Et un propre juste devient orgueilleux. Un propre juste est imbu de lui-même. Un propre juif, vous ne pouvez pas lui parler. Un propre juif ne pense qu'à lui-même. Mais avec le Seigneur, c'est tout à fait différent. C'est lui qui nous justifie par grâce. Par grâce. Alléluia. Il te dit, cet après-midi, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Troisième transfusion. Une troisième transfusion. Nous, Dieu a fait alliance avec nous par son sang. Avez-vous remarqué que dans Luc chapitre 22, verset 20, Jésus lui-même a dit, c'est ici le sang de l'alliance qui est versé pour vos péchés, pour la rémission de vos péchés. Avez-vous remarqué que le sang ici, c'est le sang de l'alliance. Voyez-vous, il y a là une vérité encore plus merveilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire, le sang de l'alliance? Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Et un jour, j'ai lu le témoignage de David Livingstone. Vous connaissez ce fameux missionnaire Livingstone qui a été en Afrique et qui a fait un travail extraordinaire. Et là, lorsqu'il est arrivé tout à fait au début en Afrique, Livingstone, pour pouvoir évangéliser et entrer dans ces pays, il a dû faire une alliance avec un des chefs de la région. Et je crois qu'il y avait une alliance par le sang. Il devait se couper ici et le sang du chef devait toucher son sang et son propre sang devait toucher l'autre. Il faisait donc ainsi une alliance. Il y avait cela et ensuite il y avait un échange aussi des biens. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, tous les biens du chef appartenaient à Livingstone. Et tous les biens de Livingstone appartenaient au chef. Et alors, lorsqu'ils sont arrivés au moment de cette cérémonie où Livingstone devait donner tous ses biens, le chef lui a dit, donne-moi la chèvre que tu as ici avec toi. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que ce chef lui demande cela? Et pourquoi Livingstone a eu beaucoup de peine à donner cette chèvre? Livingstone avait des problèmes d'estomac, il avait des ulcères à l'estomac, et il n'y avait que ce lait de chèvre qui pouvait véritablement le calmer. Et alors, il n'avait que ça, autrement il risquait sa vie. Et quand le chef lui a demandé cela, c'était un peu comme s'il devait donner sa vie. Si je donne cette chèvre, je n'aurai plus de lait et je risque de mourir. Parce que son problème était grave. Mais il l'a quand même fait, il était obligé, il a fait alliance. Il a donc donné cette chèvre et le chef en retour lui a donné une lance. La lance du chef. Une lance toute rouillée, mais c'était la lance du chef. Et alors, Livingstone se demandait ce qu'il allait devenir maintenant. Il n'avait plus sa chèvre pour avoir son petit lait. C'était la catastrophe pour lui. Et quand il est arrivé dans un village, il avait la lance à la main. Et quand il avait la lance à la main, tout le monde s'est mis à genoux devant lui. Tout le monde s'est mis à genoux. Et parce qu'il savait que quand il voyait la lance, c'était comme s'il voyait le chef. La lance représentait la présence même du chef. Et alors là, quand il a vu tous ces gens qui étaient là, et tous ces indigènes lui ont dit, « Voilà, oui, nous sommes là à ton service. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ?» Alors lui, vous savez ce qu'il a demandé? Une chèvre. Et au lieu de lui amener une chèvre, vous savez ce qu'on lui a amené? Un troupeau de chèvres. Un troupeau, il en avait plus qu'assez. Il avait fait alliance avec le chef. Et dans cette alliance-là, il a reçu beaucoup plus qu'il n'avait donné. Et dans notre alliance par le sang de Jésus, il y a un message. Cela veut dire que non seulement nous sommes justifiés, mais cela veut dire que nos vies maintenant ne nous appartiennent plus. Vous faites alliance avec Dieu. Cela veut dire que vous ne devez plus vivre pour vous-même, mais vous devez vivre pour Dieu. Vous devez non seulement donner vos péchés à Dieu, mais vous devez donner votre cœur à Dieu, votre vie, votre tout. Ce qui vous coûte le plus cher, c'est ce que Dieu vous demande. C'est ce qu'il vous demande, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous délivrer de cet esclavage et pour vous bénir en retour et vous donner davantage encore que tout ce que vous pouvez posséder. Alléluia. En donnant à Dieu, on reçoit tout ce que Dieu possède. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi, disait le père du fils prodigue. Oh, gloire à Dieu. Il a fait alliance avec nous. Cela veut dire que vous devez vous donner entièrement et lui se donne entièrement à vous. Tous ses biens sont pour vous. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc si pendant cette convention, le Seigneur vous demande une petite chèvre, alors donnez-la lui. Donnez-la lui. Lui, il vous donnera la lance. Et cette lance sera le sceau que tout ce qui lui appartient vous appartient désormais. Alléluia. C'est là une des clés de la puissance dans la vie chrétienne. Moins nous donnons au Seigneur, moins nous recevons de lui. Il y en a beaucoup qui sont déçus dans la vie chrétienne et qui se disent, oh, mais Dieu ne me bénit plus maintenant. Dieu ne me bénit plus. Je ne reçois plus rien.
Ah oui.
Ce sont des chrétiens qui ont un tel raisonnement. Pour un gramme d'obéissance, ils veulent une tonne de bénédiction. Avez-vous remarqué des chrétiens comme cela? Il y en a beaucoup. Ils donnent un gramme de bénédiction et ils veulent une tonne de bénédiction. Non, mes chers amis, ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Donnez-vous entièrement et lui, il se donnera entièrement à vous. Alléluia. C'est cela l'alliance par le sang. Cela veut dire que je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Mais que tout ce qui appartient à Dieu m'appartient aussi. Alléluia. Alléluia. Vous donnez la petite chèvre et le troupeau va vous suivre. Je ne sais pas comment vous allez faire en rentrant à la maison avec tout un troupeau de chèvres, mais enfin, vous allez voir, ça ira quand même. Alléluia! Gloire à Dieu. Quatrième transfusion, nous avons la liberté de venir dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous donne la liberté de nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, puisque nous avons par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Écoutez bien, il y a là quelque chose d'important. Une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Comment est-ce que nous pouvons entrer jusque dans le sanctuaire? Il y a là une réponse. Le jour où Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré de bas en haut ou de haut en bas. Et c'était très grand. Personne ne pouvait déchirer ce voile. Il était trop épais, trop, c'était impossible. Mais le jour où Jésus est mort, ce voile a été déchiré de haut, du haut en bas. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a aperçu le lieu très saint. Le lieu très saint était là, le lieu où seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an. Et encore, il devait faire des sacrifices. Et encore, il était là tremblant, mais seulement une fois par an. Le souverain sacrificateur pouvait entrer. Mais maintenant, lorsque Jésus est mort sur la croix, ce voile a été déchiré. Cela voulait dire, tous ceux qui croient dans le sang de Jésus peuvent maintenant entrer dans la présence de Dieu tous les jours de leur vie. Car nous sommes tous des sacrificateurs du Dieu vivant. Amen. Oh, alléluia. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a seulement certaines personnes qui peuvent se présenter devant Dieu. C'est pourquoi ils pensent que, voilà, si telle personne pouvait prier pour moi, alors ça marcherait. Lui peut aller dans la présence de Dieu. Mais moi pas. Qui suis-je, moi, pour aller dans la présence de Dieu? Non, mes chers amis, ça c'est une grave erreur. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Tu peux maintenant, par le moyen du sang de Jésus, entrer jusque dans la présence même de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Tu peux te présenter devant Dieu. Dieu peut venir près de toi maintenant à cause du sang de Jésus. Ne dis pas, je ne suis rien. Si tu es maintenant quelqu'un, tu es plus que sauvé, tu es un sacrificateur. Tu peux venir jusque dans la présence même de Dieu. Amen. C'est pourquoi il nous dit, entrez, ayez la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Ayez la liberté, soyez libre. Amen. Toi qui es là, toi qui as des problèmes, des difficultés, Tu dis, mais je ne suis rien. Comment, moi, est-ce que je peux entrer dans la présence de Dieu? Viens, viens avec le sang de Jésus. Viens, apporte le sang et dis-lui, à cause de ce sang, ô Père, je viens à toi et tu verras la présence de Dieu. Dieu s'approchera, tu le sentiras, tu verras que c'est réel. Amen. Mais là où il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas la présence de Dieu. Ne l'oublie pas. Là où il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas la présence de Dieu. Viens avec le sang de Jésus et la présence de Dieu sera avec toi. Alléluia. Et je termine une cinquième transfusion divine. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Alléluia. Ah, ça c'est intéressant aussi. Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau. Il y a donc là, dans le sang de Jésus, quelque chose que nous devons tous découvrir. C'est que le sang de Jésus est la protection du chrétien. Écoutez-moi bien, ce n'est pas quelque chose de magique. Il n'y a rien de magique dans la foi chrétienne. Il n'y a rien de superstitieux non plus. Mais c'est le fait de réaliser la valeur de ce sang aux yeux de Dieu. Et si nous considérons cette valeur, alors le diable ne pourra plus rien contre nous. Alléluia. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et nous pourrons lui dire, tu es vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, gloire à Dieu. Et je termine par ce petit récit que j'ai lu d'un missionnaire qui se trouvait en Afrique du Sud. Un jour, ce missionnaire, il a vu cela et ça a complètement transformé son ministère. Alors qu'il était un dimanche matin en train d'aller voir les indigènes, comment ils vivent. Et il s'est dit, tiens, je vais un peu voir ces indigènes, comment ils vivent un dimanche. Et alors qu'il allait au village, il a aperçu une poule avec des poussins. Mais cette poule et ses poussins avaient quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? La poule et les poussins étaient là bien tranquilles, avec ses petits rubans rouges sur le dos. Alors il a même pensé, mais est-ce qu'ils sont superstitieux à ce point-là? Pour qu'ils mettent aussi des rubans rouges? Alors, il était un peu inquiet à ce sujet-là. Et le dimanche matin, donc quelques heures plus tard, il y avait le culte. Et il voulait être au clair là-dessus. Il a dit à tous ces chrétiens qui étaient là, dites-moi, je veux une fois pour toutes savoir si, comme je l'ai vu là, si en mettant des rubans rouges sur vos poussins, sur vos poules, parce qu'on, ah oui, le propriétaire après lui avait dit, il s'était renseigné auprès du propriétaire, qui lui avait dit, c'est pour les protéger des vautours. Et aucun vautour n'a pu attraper ou attaquer un de ses poussins ou une de ses poules lorsque ceux-ci avaient un ruban rouge. Alors il voulait savoir exactement si c'était la vérité. Il a dit, mais dites-moi la vérité. Et tous les chrétiens ont dit, c'est vrai, aucun vautour ici n'a pu attaquer ses poussins lorsqu'il y avait ce ruban rouge sur eux. Mais on leur a dit, attention, quand dans ce petit groupe-là de 10, il y en avait un qui n'avait pas le ruban, même s'il faisait partie de la famille, eh bien, le vautour venait et attaquait celui-ci et le déchiquetait. Et on lui a dit aussi que lorsque ces rubans rouges étaient sales un petit peu et qu'on ne voyait plus le rouge avec netteté, le vautour venait et les emportait aussi. Alors il a compris une chose, ce missionnaire, c'est que, il a pensé au sang de Jésus bien sûr, il s'est dit, alors le sang de Jésus est une protection invincible contre les attaques du diable. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et il en a fait l'expérience après. Quelque temps après, il était en brousse. Et il dénonçait l'ivrognerie et il dénonçait l'impudicité qui se trouvait là-bas, si bien que les indigènes et les sorciers n'étaient pas contents. Et ils ont dit, celui-là, il faut qu'il y passe. Alors, il savait que les indigènes en voulaient à sa vie. Il le savait. Sa vie était en danger. Et alors, un jour, qu'il se trouvait tout seul dans sa case, tout à coup, dans l'après-midi, il a senti comme une puissance mauvaise qui venait sur lui. Et il a tout de suite réalisé que c'était le diable qui était là, venu pour l'attaquer. Et alors, il s'est mis à genoux et il a crié à Dieu, « Oh Dieu, protège-moi !» Et il a plaidé le sang de Jésus, sur lui. Et après, il est resté dans le calme et tout toute la nuit, il a pu s'endormir dans la paix. 2 mois après, il a su quelque chose. Il a su que ce jour-là, 2 sorciers l'attendaient derrière sa porte. Et lorsque le grand chef sorcier avait jeté un sort sur lui et que la puissance mauvaise était venue près de lui, à ce moment-là, il devait sortir de sa case. Et au moment où il sortirait de sa case, les 2 sorciers étaient là avec 2 lances pour le transpercer. Mais lui, il n'est pas sorti. Et le lendemain, ils étaient tellement fatigués, ces 2 sorciers, que vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à se transpercer eux-mêmes. Incroyable ! Vous le savez, dans la Bible aussi, il y a des cas comme ça, où les armées qui luttaient contre Israël, après se sont retournées contre eux-mêmes. Et ils étaient tout ensanglantés, et ils sont allés trouver leurs amis là-bas. Et ils ont dit, il n'y en a rien pu faire. Celui-là, il a une puissance plus grande que la nôtre. Et ils étaient complètement décontenancés, défaits par la puissance du sang de Jésus. Si bien que un de ces sorciers, celui qui a voulu les détruire, quand il a vu ça, l'autre dimanche, il a dit maintenant, je veux que tous les sorciers de la région viennent dans cette église. Je veux rendre mon témoignage. Je veux dire qu'à partir de maintenant, je donne ma vie à Jésus. Et il a amené tous ses fétiches, toutes ces choses de sursorcellerie, et il a dit à tout le monde qui était là, et aux sorciers qui étaient là, il leur a dit, voilà, avec toutes ces choses mauvaises, j'ai tué beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de mal, mais à partir de maintenant, je vous demande pardon à tous qui êtes ici. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur, et je veux complètement changer. Et à partir de ce jour-là, il y a eu un réveil dans cette région-là. Beaucoup de gens se sont convertis, et le feu du réveil s'est répandu. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus était répandu. Le sang de Jésus était cru par un missionnaire et confessé. Oh, gloire à Dieu. Chers amis, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Le croyez-vous ? C'est une réalité. Alléluia. Ce ne sont pas vos petites médailles qui vous protégeront. Ce ne sont pas vos fétiches ici. Ce ne sont pas ces choses. Il y en a beaucoup qui croient cela. Non, mes chers amis, au contraire, ces choses-là attirent la malédiction sur vous si vous les considérez comme des porte-bonheur, comme des protections. Ça attire, au contraire, l'ennemi. Mes chers amis, c'est le sang de Jésus qui nous protège. Alléluia! Alléluia! Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! Oh, croyez-y! Croyons-le! Plaidez le sang de Jésus sur vous, sur vos familles! Plaidez! Plaidez le sang de Jésus! Et l'ennemi devra fuir. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire au Seigneur.
Exalté ton nom. Donne-toi mon amour.